www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Luis Fernando Pérez.
Bonjour Marc.
Alors vous êtes à Paris et dans votre valise vous avez amené un nouvel album pour le label Mirare.
Oui.
Un album de Granados.
Oui.
Comme ça qu'on prononce Granados.
J'essaye de bien. C'est mieux que mon français.
Et sur lequel vous avez enregistré les Goyescas et avec même en ouverture d'album les Vals Poéticos.
Oui.
Alors c'est un album un petit peu, enfin une œuvre plutôt un petit peu particulière.
Oui.
Peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu en introduction de cette œuvre et du rapport que Granados avait avec la peinture de Goya.
Ah, c'est vrai que c'est une œuvre très particulière parce que pour piano nous n'avons pas beaucoup de grands cycles, de beaucoup de temps.
Liberia.
Oui, Liberia c'est grand, les vents regardent de Messiaen, et de cycles comme ça. Goyescas c'est un autre. C'est naturellement un cycle très, très intellectuel parce qu'il y a une très grande influence de la peinture de Goya, de le grand pinteur espagnol, Francisco de Goya, et de sa couleur, de sa palette. Granados avait une grande inspiration avec ça. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le Madrid de l'époque, c'est le Madrid de los majos, las majas, comme on dit en Espagne, de les femmes, les hommes. C'est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire de cortège, d'amour, des amantes illégales, des amantes qui sont les deux mariées, mais qui l'amour est comme ça. Et au fond, c'est un amour aussi impossible parce que le mari d'elle va assassiner l'amante d'elle. Oui. C'est l'histoire d'un amour impossible et c'est dans les six pièces de le cycle, c'est un peu comme toute l'histoire, c'est l'histoire de l'opéra aussi, c'est la même chose. Et ça commence avec les cortèges dans la première pièce, dans la deuxième pièce, l'amour est là et les deux amants parlent, profiter de son amour et tout ça. Et le troisième, c'est une pièce où c'est une fête populaire dans le village. Et c'est là où le mari va dire « je te vais tomber à l'amante ». Et la quatrième, c'est la pièce la plus intime du cycle, où elle, dans l'intimité, pense et sent son amour et rêve de son amour. Et la cinquième, c'est la plus importante peut-être de tout le cycle, « L'amour et la mort ». C'est la Goyesca le plus important où l'amant est mort au fond de la pièce. Et la sixième, c'est seulement une pièce pour finir, c'est le spectre, le fantôme de l'amant qui est là et qui parle un petit peu de tout ce qui avait passé, de l'amour et de tout, avec tous les thèmes de chaque pièce. Oui.
Est-ce que vous vous souvenez la toute première fois quand vous étiez jeune, vous avez découvert cette œuvre? Est-ce que c'était par votre professeur Alicia de la Rocha que vous l'avez découvert? Est-ce que la première fois que vous avez entendu c'est Goyescas?
Oui, je pense que comme presque tous les Espagnols et de mon âge, je suis sûr, quand nous avons écouté de la musique espagnole, c'est toujours Alicia. C'est toujours les disques d'Iberia d'Alicia, les disques de Goyescas d'Alicia et tous les autres disques de musique espagnole. Oui, oui. Ça, c'est mon père qui m'avait donné les CD quand je suis très petit. Et, oui.
Et quand vous avez évoqué cette œuvre avec elle, comment elle vous a, comment elle présentait, comment elle parlait de cette œuvre, comment elle en, qu'est-ce qu'elle représentait cette œuvre en particulier?
Elle m'avait donné beaucoup d'informations. Naturellement, j'avais travaillé beaucoup toutes les œuvres de la musique espagnole avec elle, et presque tout, parce que c'est un répertoire grand, c'est pas petit. Mais elle avait parlé beaucoup de choses pratiques pour jouer et elle avait toute la tradition de Granados. Sa mère avait été
élève de
propre Granados. Elle avait été, Alicia avait été aussi élève de Frank Marshall, le plus important élève de Granados. Mm. C'est une tradition à Barcelone où l'Académie Granados était là et c'est une académie fondée par Granados. Après, le directeur avait été Frank Marshall, après Alicia, et maintenant c'est la fille d'Alicia, c'est comme une tradition familière. Non? Et elle m'avait parlé de beaucoup de choses. Aussi, dans la partition, il y a beaucoup de notes falses, beaucoup de choses différentes qu'Alicia avait portées toujours avec elle, les premières éditions, avec toutes les corrections de Granados, de la main de Granados. Oui, on avait travaillé beaucoup. Alicia avait fait l'édition Granados, l'édition Alicia de la Rocha, c'est une nouvelle édition de œuvres de Granados, où tous les étudiants ont participé. Avec ça, on avait fait les corrections et tout ça. Et oui, on avait travaillé beaucoup, ça, oui.
Est-ce que vous-même, vous vous êtes replongé dans la peinture de Goya pour préparer cet enregistrement? Est-ce que vous avez été voir des toiles, des tableaux dans certains musées, même si vous les avez peut-être déjà vus? Est-ce que vous vous êtes replongé dedans ou pas?
Oui, comme espagnol, pour moi, ça, c'est pas quelque chose bizarre. Les tapis de Goya, les peintures de Goya, on les étudie à l'école quand nous sommes très petits et tous les... Je les connais très bien de toute ma vie, toutes les peintures.
Donc vous avez juste à fermer les yeux et...
Oui, si je ferme les yeux maintenant, j'avais la peinture ici, visuellement, dans la tête, oui.
Sur justement le rapport entre la musique et la peinture, il n'y a pas finalement tant d'œuvres que ça dans l'histoire de la musique qui citent aussi directement des œuvres ou des peintres aussi précisément. À titre personnel, quelle influence peut avoir les autres arts, j'imagine, mais la peinture en particulier sur votre piano, sur votre musique? Est-ce que vous visualisez beaucoup quand vous jouez? Ou ça dépend des compositeurs?
Pas seulement la peinture, qui est le plus important art pour le jeu, non? Le plus excellent que nous avons pour le jeu, c'est la peinture, les grands maîtres, tout ça. Mais j'avais une imagination toujours très visuelle. Quand j'ai joué aussi, j'entends d'avoir une histoire psychologique ou une histoire. Et dans cette histoire, je trouve comme de chercher comme un film dans ma tête aussi. Oui, je suis très visuel pour jouer. Et aussi les couleurs et ça, c'est très ensemble. Ensemblé, on peut dire, oui. C'est correct, oui. C'est très ensemblé avec cette idée d'audiovisualité, si on peut dire ça.
Thank you.
Comment vous avez préparé l'enregistrement donc des œuvres comme ça que vous jouiez depuis un certain temps? C'est pas elles ont vécu avec vous, avec votre piano depuis plusieurs années, mais quand on les enregistre, c'est différent. C'est quelque chose qui va rester, un album, un enregistrement. Comment vous avez préparé précisément cet enregistrement? Et quelles étaient peut-être les difficultés techniques ou les aspects qui...
Quand j'avais fait les disques, je vais dire que ça a été un moment pas facile pour moi, parce que dans ce moment, j'avais tenu beaucoup de concerts avec des différents programmes. Et dans ce concert, je n'avais pas joué Goyescas, mais j'avais enregistré en moitié de tous ces concerts les Goyescas. J'avais préparé pas spécialement pour enregistrer les Goyescas. Les Goyescas sont des œuvres que j'avais jouées beaucoup dans ma vie, beaucoup de fois dans beaucoup de concerts. Je les connais très bien et c'est une intention. On avait l'intention d'enregistrer avant, mais j'avais pas tenu le temps et ça a été venu comme ça. Et c'est toujours difficile. Tu arrives au studio, il faut penser qu'est-ce que exactement tu voudrais écouter. J'avais une manière.
Vous aviez une vision précise, vraiment, de ce que vous vouliez?
Oui, j'avais une vision précise et naturellement, ça change immédiatement dans les studios et parce que les pianos, c'est différent. Mais j'avais une manière particulière d'enregistrer. J'enregistre et j'écoute tout de suite. Et j'ai décidé immédiatement qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde mal, qu'est-ce qu'il faut répéter, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on manque pas, et tout ça, non? Et on avait fait les... La bonne chose, c'est comme on avait enregistré dans 3 jours. Dans ces 3 jours, les visages de tous les Goyescas avaient été tout le temps là. Et comme ça, c'est plus facile de faire les cycles, la connexion des 6 pièces. Oui.
Les œuvres, enfin, les cycles sont différents. Si on prend Iberia, que vous avez cité au début, et les Goyescas, comment vous vous situez entre ces deux colosses, ces deux géants du répertoire pianistique espagnol? En termes de valeur, sont deux entités énormes avec lesquelles vous vivez, j'allais dire, depuis plusieurs années. Même oui. Iberia, vous l'avez déjà enregistré il y a plusieurs années.
Oui.
Ce sont des choses auxquelles on revient régulièrement. Il faut revenir. Peut-être, je ne sais pas, Iberia, vous aurez peut-être envie de réenregistrer et ça se trouve...
Oui, j'avais envie d'enregistrer ça. Oui, comme toutes les œuvres sont des œuvres vives. Et comme les œuvres sont vives, avec le temps, ça change. Et l'interprétation change aussi, les messages changent. Qu'est-ce que tu penses de les œuvres changent beaucoup. Les Goyescas et Liberia sont très très différents parce que Liberia a été inspiré meilleurement dans le flamenco, dans l'Andalousie. Mais Goyescas s'est inspiré dans Madrid. C'est un folklore espagnol absolument différent. C'est pas le flamenco. C'est des thèmes folkloriques très typiques castellans ou le thème de la jota, que c'est castellan et aussi de Aragon, un peu au nord de Madrid. Le folklore c'est différent, l'ambiance est différente et la manière de jouer c'est différent, la technique c'est absolument différent. Et peut-être pour le public, c'est la même chose, non? C'est tout la musique espagnole, c'est musique espagnole.
Oui, ça, c'est les étiquettes ou quand
même. Oui, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est pas pareil.
Différent, non,
c'est très, très différent, oui. Parce que Granados est proche à Liszt, à Schumann, à Chopin, à Grieg. Peut-être c'est un romantique. Mais Albéniz, c'est très différent. C'est un pianiste qui avait développé la technique du piano comme Rachmaninov, comme Liszt, comme des autres, qui avait créé une nouvelle technique, une nouvelle manière de jouer le piano. Ça, c'est une difficulté différente de Granados, qui a été un pianiste, un grand pianiste, mais un pianiste romantique normal. Et la technique de Granados, ce n'est pas quelque chose de très, très différent aux autres compositeurs. Et oui, voilà, c'est des musiques différentes, oui.
On a parlé d'Alicia de la Rocha au début de cet entretien. Vous disiez tous les Espagnols finalement connaissent, etc. C'est elle qui a transmis. Enfin, il y a un côté essentiel et principal, connu même d'un vaste public. Vous avez eu la chance d'être d'un de ses élèves.
Oui.
Est-ce que parfois il y a justement l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire un poids, un fardeau, c'est-à-dire que comment on se sort, est-ce qu'on se sort facilement, j'allais dire, du poids de ses maîtres? On parlera peut-être après des autres. Vous avez travaillé avec Pierre-Laurent Aymard, avec Bachkirov, etc. Donc des personnalités totalement différentes en plus.
Oui. J'avais cette intention de travailler avec des personnalités très, très différentes pour prendre des choses très, très différentes et après faire qu'est-ce que je voudrais ou qu'est-ce que je pense que je vais faire, non? Et, oui, le poids d'Alicia, c'est un poids très grand. Elle avait été la personne qui avait enregistré meilleurement presque toute la musique espagnole. Elle avait tourné dans tout le monde avec cette musique. Elle avait fait connaître cette musique à l'étranger, aussi en Espagne. En Espagne, il y a beaucoup d'Espagnols qui ne connaissent pas beaucoup ou qui ne connaissent pas très bien la musique espagnole. Ne vous inquiétez pas, ne pensez que l'Espagne, c'est comme la France, qui tout le monde connaît qui est Debussy. Il y a des personnes en Espagne qui ne savaient pas qui est Granados ou qui est Albéniz, non? Albéniz peut-être plus, ou Falla sont plus connus. Et le poids d'Alicia était très, très difficile, pas pour les Goyescas, parce que je pense que ça qu'Alicia m'avait dit, ou le conseil d'Alicia, ou tout le travail avec Alicia pour les Goyescas, c'est plus proche aux fans, aux vrais fans. Avec Liberia, ça a été très difficile, parce qu'il y a beaucoup de fois que quand j'avais joué, j'avais regardé la partition et j'avais dit « Oh mon Dieu, mais je fais ça intuitivement, un petit peu comme j'avais écouté ça de petit garçon, non ?» Mais ça, c'est pas qu'est-ce qu'Albéniz avait écrit. Albéniz avait écrit une autre chose, non? Et ça a été un travail très difficile de un peu sortir de l'esprit d'Alicia et sortir de sa personnalité, sa direction, et trouver qu'est-ce que je voudrais faire avec Liberia et qu'est-ce que je pense que vraiment c'est le message d'Albéniz et qu'est-ce que Liberia dit moi, non?
Qu'est-ce que vous ont apporté des maîtres donc, assez différents, justement, comme par exemple Pierre-Laurent Aymard ou Bachkirov, par exemple, justement, assez loin d'Alicia de la Rocha? C'était, vous avez dit, j'avais envie justement d'avoir une vision très très large, très très vaste. Comment on coupe le cordon avec tous ces maîtres, et surtout, à quel moment on se dit, j'ai quelque chose à dire, moi?
Et je fais le résumé de toutes les bonnes choses que tous les grands maîtres m'avaient dit.
Vous êtes une compilation, c'est ça?
Oui, et aussi les grands maîtres avaient... C'est comme une information magique, c'est comme un acide en anglais.
Une graine,
oui. Et le grand maître te donne une graine. Et c'est toi qui développe cette graine. Et j'avais fait ça. Et naturellement, le chemin, après, peut-être c'est absolument loin de cette graine originale. Mais ça, c'est la seule mère. Et après, tu prends ton chemin technique et ton chemin de recherche, de sonorité. Parce qu'il m'avait donné presque tout, la généralité de ma formation, de la technique, du concept de la partiture, d'être vrai avec le compositeur, de la qualité du son, des conditions physiques, de comment utiliser le corps et tout ça. Pierre-Laurent m'avait donné, jusqu'à après le temps de Bachkirov, il m'avait donné beaucoup la liberté d'exprimer qu'est-ce que il avait entendu que je sente. C'est toujours un exercice psychologique avec Pierre-Laurent. Il m'avait dit, non, je sens que tu sens ça, mais ça ne vient pas. Et libérer ça, et donne ça à l'instrument. Il m'avait donné des conseils techniques incroyables, parce que Pierre-Laurent avait une technique incroyable, c'est absolument génial. Et c'est un musicien qui avait fait beaucoup d'investigations lui-même. Lui-même, il avait cherché comment faire, comment solutionner les problèmes. Et ça, ça a été très, très intéressant avec Pierre-Laurent. Et avec Alicia, toute la musique espagnole. J'avais travaillé seulement la musique espagnole avec elle. Et pas seulement ces trois, et Bruno Leonardo Gelber et André Schiff. J'avais très, très bonne influence des autres musiciens aussi très différents.
Et quand vous vous êtes retrouvé tout seul avec vos petites graines, vous avez facilement trouvé votre chemin, trouver votre voie? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu facilement? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce que vous avez douté parfois, justement?
Est-ce que rien ne vient facilement, je pense, pour tout, pour les personnes qui travaillent dans l'office, pour les pianistes, pour les musiciens, pour toutes les professions. Rien ne vient facilement. Les grands, c'est une merveille que tu avais une personne à côté qui te peut donner cette grande magie. Mais les grands magiques, c'est absolument rien si tu ne travailles beaucoup, et si tu ne recherches beaucoup, et si tu ne penses beaucoup. Et beaucoup de travail, oui.
Si on revient à la musique espagnole, alors c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, mais on se demande, quand on plonge son nez dedans, le répertoire est très 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 vaste, il y a beaucoup beaucoup de choses. Oui. Finalement, il y a très peu de choses qui sont enregistrées, il y a toujours des clichés sur la musique espagnole, et c'est vrai, quand on regarde les programmes de concerts aux quatre coins du monde, il n'y a quand même pas beaucoup de musique qui est jouée. Alors, comment on l'explique? Comment on essaye de faire changer les choses? Est-ce que c'est un combat quotidien
Il faut prendre un bombe et nucléaire et détruire les Pyrénées. Je pense que la raison la plus importante, c'est les Pyrénées.
Ouais. Première étape.
Oui, c'est la première étape. Comme nous avons les Pyrénées, ça c'est, je pense, la raison pourquoi l'Espagne s'est un peu toujours bloquée. Et aussi... les Espagnols, nous, on ne pense pas que notre chose sont très bonnes. Nous ne sommes pas très bons...
pas du bon marketing.
Oui, non. Oui, pas de bon marketing, absolument. Mais nous avons, je pense, une culture très, très intéressante et très, très originelle, très unique, très différent.
Ouais, même ces pièces, ces Goyescas, oui. Sont d'une richesse incroyable et pas juste sur l'aspect typiquement espagnol ou autre. On voit des.
Oui, il y a des personnes très françaises ici, très expertes, qui m'avaient dit pourquoi pas L'amour et la mort. C'est pas dans le répertoire de tous les grands pianistes du monde. Et j'avais dit oui, c'est une pièce vraiment. La musique, c'est une merveille, mais je savais pas. Je fais ce que je peux. C'est une musique que j'adore et j'espère que tout le public adore cette musique. Et j'intente de faire comme Alicia aussi, et faire le travail de connaître, de faire le public connaître cette musique. Et c'est ça, c'est une autre musique là et ça existe aussi.
Quelles sont vos envies, vos projets? Vous avez envie d'enregistrer quoi prochainement? Vous avez envie de vous attaquer à quel répertoire?
Comme le 2012, j'avais une période où j'avais beaucoup de concerts, mais pas la folie comme cette année passée et comme ça sera 2013, ça sera aussi la folie. Mais 2012, j'avais du temps et j'avais beaucoup d'idées dans la tête. Une des idées est d'enregistrer des choses pas espagnoles pour éviter les clichés de que je peux seulement jouer les choses espagnoles, oui. Peut-être Brahms ou peut-être de Liszt, Chopin aussi. J'avais besoin d'enregistrer le deuxième volume de Nocturne aussi, que j'avais promis à René Martin et que le premier est sorti, mais le deuxième n'est pas préparé, pas enregistré. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut faire. Peut-être le prochain disque va être des œuvres de piano avec orchestre espagnol. Mais je ne peux pas dire beaucoup. On avait aussi l'intention d'un projet magnifique et très, très beau, que je ne peux pas parler aussi, d'enregistrer Iberia en Espagne, avec pas seulement audio, aussi vidéo. Mais ça viendra, c'est un projet très grand et il faut travailler beaucoup pour préparer tout ça.
Il n'y a pas une envie aussi de montrer que dans le répertoire espagnol, il n'y a pas uniquement Granados et Albéniz, il y a des tonnes de compositeurs.
Oui, j'avais aussi l'intention d'enregistrer Mon Pau. De faire beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. les concerts et aussi je suis professeur et je fais ce que je peux tout le temps.
L'enseignement, justement, c'est quelque chose qui est important pour vous, transmettre, la transmission, pourquoi tout simplement vous enseigner, par exemple? Donner des cours, enseigner, c'est quelque chose
Je pense que si la vie te porte des choses merveilleuses, il faut que tu donnes des choses merveilleuses à les autres. Et c'est comme une chaîne, non? Si la chaîne ne fonctionne pas, ça ne marche pas.
Quel genre de professeur vous êtes?
Et maintenant, je suis professeur de musique de chambre. Et c'est très difficile. Je voudrais être professeur de piano. C'est plus facile pour moi, parce que je connais le piano beaucoup mieux que les autres instruments, naturellement. Mais je travaille à Madrid, dans l'école Reina Sofía, comme assistant de musique de chambre. J'avais un boss hongroise merveilleux, c'est un fantastique pianiste hongroise. Elle s'appelle Marta Gulias. Elle était un très, très grand professeur de musique de chambre. Et on travaille là, on avait 15 groupes de musique de chambre. Beaucoup de travail aussi, oui.
Quel mélomane êtes-vous? Est-ce que vous écoutez beaucoup de disques? Est-ce que vous achetez beaucoup de disques? Vous en téléchargez? Vous allez au concert? Quel rapport vous entretenez avec la musique enregistrée quand il vous reste du temps? Ou peut-être que vous n'en écoutez pas?
Voudrais dire que cette dernière année, comme j'avais beaucoup de travail et j'avais beaucoup moins de temps, j'écoute moins musique. Et aussi, mon intérêt maintenant, c'est beaucoup moins qu'avant. Et j'avais un très grand goût pour tous les grands maîtres du passé, et pour les grands pianistes de Golden Era, Rao et tous les élèves de Liszt, Rubinstein, et tous les grands maîtres du passé. Non? Et maintenant, je trouve que c'est très, très difficile pour moi de trouver quelqu'un ou quelque chose que je suis ravi avec ça, non? Mais naturellement, il y a des choses, mais...
Vous écoutez peut-être de musique autre que de la musique classique pour justement, dans ces cas-là?
Oui, je dévore tout type de musique. C'est pas seulement la classique, le pop et tout, oui. Dans l'automobile, c'est presque interdit
d'écouter la musique classique.
Oui, d'écouter musique classique.
No classique que l'aréa.
Oui, oui. C'est... J'écoute tout le reste, oui.
Oui.
Pour libérer les oreilles aussi, non? Tu travailles toujours, j'étudie tous les jours, je donne des leçons tous les jours avec musique classique. Et quand le jour est fini, changer un petit peu le registre, non?
Comment vous choisissez vos répertoires, justement, entre les œuvres majeures que vous avez envie de jouer, d'enregistrer en tant que pianiste, et peut-être la curiosité d'aller dans des répertoires qui sont plus rares, ou moins connus, ou peu enregistrés? Vous slalomez un peu entre tout ça? Comment vous avancez étape par étape entre même ce que vous voulez jouer sur scène et ce que vous voulez enregistrer?
Généralement, ce que j'ai enregistré, c'est ce que j'ai joué aussi dans les scènes. Mais il y a des exceptions. Cet disque que j'avais enregistré, comme les Soler, les sonates de Soler, les Chopin, les Goyescas, les Iberia, toutes ces choses, sont des choses que j'avais dans mon répertoire beaucoup de temps. Et pour chaque disque, j'avais fait une très grande investigation musicologique. Pour Soler, j'avais trouvé des sonates nouvelles et pas découvertes et des choses comme ça. Mais le plus important, c'est enregistrer. Qu'est-ce que tu voudrais enregistrer parce que tu sens que c'est ça, le moment pour enregistrer ça. Et René et Martin m'avaient demandé Goyescas beaucoup de temps, mais les Goyescas sont venus maintenant. C'est parce que j'avais senti que c'est maintenant le moment d'enregistrer ça. Non? Peut-être un an avant, ce n'est pas la même chose. Je n'avais pas la même inspiration. Vous comprenez, non?
Oui, bien sûr.
Mon français, c'est terrible. Mais...
Non, votre français est très bien. Luis Fernando Pérez, merci. Donc, je rappelle que ces Goyescas sont publiés chez Mirare. Merci beaucoup.
Ah, merci. Merci, Marc.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.